גדול. השם יחול קודשה ויחול שכינתה. Alors ce soir, Bézard Hachem, nous allons parler du sujet qui nous concerne aujourd'hui et d'une manière générale dans la génération dans laquelle nous sommes. Le sujet, à mon avis, qui est le sujet principal, à savoir la Géoula. Et cette Géoula, bien entendu, s'inscrit dans Pessah d'une manière beaucoup plus précise, puisque Pessah est la fête de cette Géoula. Avant d'introduire directement le sujet, qui est quand même assez vaste et large, il faut mentionner quelque chose de très important, c'est que associé à la Géoula, associé à notre sortie d'Égypte, nous trouvons un verset dans la Torah, ce fameux verset qui nous dit « HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodeshim, Rishon Hu Lachem Lechodesh HaShana ». C'est-à-dire que dès la sortie d'Égypte, nous avons une information divine. HaKadosh Baruch Hu nous dit « Vous voyez ce mois, le mois de Nissan, le mois de votre sortie d'Égypte, HaChodesh Hazeh Lachem ». Je vous l'offre. C'est pas seulement une information comme on a l'habitude de le lire en hébreu, Rosh Chodeshim. Ce mois est la tête de tous les mois de l'année. Bien entendu. Mais à mon sens, le véritable chidouche, la véritable nouveauté, c'est le début. Rosh Chodeshim. Ce mois est à vous. Ce mois vous appartient. Je vous le donne cadeau. Quel mois? Le mois de Nissan. Ça veut dire que HaKadosh Baruch Hu nous donne le mois où nous sommes nés, puisque le peuple d'Israël est né le mois de Nissan. Je vous donne donc comme cadeau d'anniversaire, de naissance, un cadeau extraordinaire, le temps. C'est-à-dire qu'HaKadosh Baruch Hu nous offre l'un des plus beaux cadeaux, à mon avis, le plus beau cadeau qui puisse être, le temps. Une boîte où il y a marqué cadeau d'anniversaire, et lorsqu'on ouvre cette boîte, il y a le secret du temps. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que je suis en train de vous dire, mais c'est le plus grand secret qui, à travers tout ce que nous faisons à Pessah, c'est la chose la plus essentielle. C'est que HaKadosh Baruch Hu nous a donné la notion de temps en cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire la notion de temps? On ne va pas faire le shiur concernant ce sujet-là. Mais tout de même, il faut parler et dire quelques mots concernant le temps. Le peuple d'Israël, à partir du moment où il sort d'Égypte, c'est un peuple qui ne va pas servir les moyens, mais l'essence. L'un des moyens, c'est le temps. C'est-à-dire que servir le temps, c'est servir les moyens. Puisque le temps est soumis aux astres, ce sont les astres qui gèrent le temps, le soleil et la lune. Celui qui domine le temps, en réalité, domine les astres du temps. Ceux qui sont sous la domination des astres, des étoiles, sont appelés Ovdei Kochavim Vemazalot. Ce sont ceux qui servent les étoiles et les astres, avec tous les mazalot, tous les signes astrologiques. Autrement dit, nous avons reçu la racine du temps en cadeau. Pourquoi la racine du temps? Puisque le mois de Nissan, c'est le mois qui débute l'année juive. Le calendrier juif ne commence pas par Tishré, mais par le mois de Nissan. Le mois de Nissan est donc la matrice du temps, et c'est la matrice du temps qui nous a été donnée cadeau. Pourquoi c'est la matrice du temps? Même dans les signes astrologiques, chez les goïms, nous savons, parce qu'ils sont tirés de Am Israël, que le premier astre, c'est le premier mazal, c'est le bélier. Le bélier est le premier mazal dans l'astrologie. Et ce bélier, en fait, c'est le début de l'année. Et c'est pour ça qu'à Pessah, nous devions attacher le bélier et le sacrifier la veille de notre sortie d'Égypte. Autrement dit, en signe de notre capacité à sortir d'Égypte, de libération d'Égypte, il faut que je prouve que le temps, donc le bélier, m'appartient. Je suis capable d'attacher le temps à mon service. Et donc je le prends le 10 du mois de Nissan, qui à cette époque de la sortie d'Égypte était un Shabbat. Et ce Shabbat, on l'appelait Shabbat Hagadol, parce que là-bas se déploie dans le monde la qualité qui s'appelle Gadol, en hébreu Gdoula, qui est synonyme de Chesed. La bonté s'appelle Gdoula. De la même manière, lorsqu'on sort la Torah, on dit Lecha Hashem Hagdoula Vehagvura Vehatif'eret. C'est-à-dire Gedoula égale Chesed. On a reçu donc en cadeau, le jour de la sortie d'Égypte, le temps. Pourquoi ? Parce qu'on a été capable, la veille de la sortie d'Égypte, d'attacher le temps, donc le bélier, et de le prendre à notre service. C'est le temps qui me sert, et pas moi qui sers le temps. Et ça, c'est un grand secret de la sortie d'Égypte. L'une des prisons de l'homme, c'est être emprisonné par la notion de temps, que le temps dépasse en fait les actions de l'homme. Et l'homme n'arrive pas à s'inscrire dans cette notion de temps qui est très très difficile à concevoir. Et tout doucement, nous allons rentrer dans le domaine de Pessah. Lorsqu'on parle de Géoula, d'une manière générale, on parle de la capacité à prendre quelque chose qui est dans un état de graine, de potentiel, et de le développer. C'est ça la Géoula. J'explique avec d'autres termes, si je suis né avec une capacité de devenir quelque chose, quelqu'un, et que j'ai développé mon être pour devenir ce quelqu'un, j'ai réalisé ma Géoula. Mais si quelqu'un est né avec un potentiel de devenir quelqu'un, et qui n'a pas développé ce potentiel, il est resté potentiel toute sa vie, et il est mort avec ce potentiel sans l'avoir dévoilé, en fait, cet homme n'a pas goûté à la notion véritable de Géoula. Moralité, nous devons chercher chacun en nous l'essentiel pour lequel nous sommes venus ici et le dévoiler, le sortir, le transformer d'un potentiel en réalisation. Et donc, toute chose que je réalise, qui sort de moi-même, qui était dans un état de point initial, infini, car un point est infini, je peux faire toutes les formes possibles et imaginables à partir d'un point, mais justement parce que je peux tout faire, il se peut que je ne fasse rien. Lorsqu'on a beaucoup de possibilités, on est parfois paralysé par le nombre infini de possibilités. Ça, c'est l'Égypte. Si je prends cette possibilité potentielle et je la développe, je lui donne une direction, je lui donne un volume, alors cette puissance-là devient quelque chose de réalisé. Donc elle va sortir du point et devenir un volume. À partir d'un point... Il est parti. Je crée un volume. Le point est à l'intérieur, l'initial. C'est-à-dire, c'est un cube que j'inscris maintenant dans une lettre. C'est-à-dire que le point initial, c'est un yud, alors que le volume au niveau cubique, c'est une largeur, une hauteur et une profondeur. Donc j'ai créé la lettre ré. J'ai pris la lettre yud et j'en ai fait une lettre ré. Je lui ai donné trois directions. Autrement dit, pour sortir d'Égypte, il faut que je prenne mon yud, et chacun a un yud, son potentiel, sa graine initiale, et il doit la développer en lui donnant trois directions. Une hauteur, une largeur et une profondeur, qui sont trois degrés dans notre vie. Être profond, être grand et être large. Et si je développe ce point dans ces trois directions, j'ai dessiné la lettre V, qui est la fameuse lettre que les enfants d'Israël devaient dessiner sur les linteaux de leur porte avant de sortir d'Égypte, la nuit de la sortie d'Égypte. Avec le sang de qui ? Du bélier et de la Brit Mila que nous avons subi cette même nuit. On devait donc prendre un pinceau fait de l'hysope, du za'ata, dans ces deux sangs mélangés, mélanger les deux sangs et dessiner sur la porte la lettre He. En signe de quoi ? J'ai compris à Kadosh Baruch Hu, je suis parti d'un point et je suis devenu un volume. J'ai une direction de vie. Je ne veux pas toute ma vie rester un point potentiel. Vous avez bien compris donc que l'Égypte n'est ni plus ni moins qu'un point. Infini. Un point avec lequel on peut faire beaucoup de choses, mais avec lequel on ne fait rien. C'est ça l'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est transformer le point, le yud, en direction qui est toujours triangulaire, yamim, small et centralité, et c'est la lettre V. Elle a trois directions. Tout à l'heure j'ai dit hauteur, largeur et profondeur, c'est la même chose. Avancer vers une direction qui est féminine, puisque la lettre V est féminine, alors que la lettre yud est un potentiel masculin. Et donc d'arriver de l'Égypte, qui est le Yud initial, à Eretz Israël, qui est la lettre He, qui est la royauté, qui est la malchut, qu'on appelle He Tartona, la He d'en bas, la Shechina, qui se termine par la lettre He. D'où l'importance de donner aux filles un prénom avec la lettre He, pour qu'elles puissent engendrer et donner la vie, car la lettre He chez une femme lui permet la grossesse. Donc de prendre la graine potentielle de l'homme et d'en faire un volume, c'est-à-dire un bébé. C'est pas par hasard que le Harizal nous compare la sortie d'Égypte à la naissance d'un enfant. Cet enfant qui est sous la forme d'une graine initiale, qui rentre en Égypte, donc dans le ventre de sa mère, et qui doit se développer dans le ventre de sa mère. Cet enfant, en l'occurrence, c'est la graine, donc Yosef, qui est rentré le premier en Égypte, et qui a préparé le terrain de la maman Égypte pour fabriquer le bébé, l'ensemble d'Israël, jusqu'à la sortie d'Égypte. Donc la graine qui rentre dans le ventre de cette maman va transformer le corps de cette maman, puisque toute la maman maintenant va se mettre au service de cette graine qui est en elle. Et on voit bien que le corps de la maman, au moment où la graine est en elle, se transforme totalement, tout entière, elle est au service, elle se vide littéralement pour donner la puissance à cet enfant qui lui va se développer à l'intérieur de son ventre. Et lorsque cet enfant va se développer dans son ventre, il va prendre la forme que nous connaissons, peuple d'Israël, d'une graine initiale peuple, et c'est le peuple qui va sortir d'Égypte comme un accouchement avec les os et le sang, donc tous les plaies d'Égypte qui vont faire en sorte de l'accouchement. Ce processus-là, c'est un processus qui, je reviens à notre sujet, a pris une qualité de départ et en a fait une réalisation. Et c'est ça, sortir d'Égypte. Celui qui ne réalise pas, qui ne se réalise pas, reste dans ses domaines de non-réalisation, dans un état d'Égypte. Et donc nous avons tous beaucoup de degrés que nous sommes encore en Égypte. Tous les degrés que nous n'avons pas encore développés en nous sont encore en Égypte. Donc on ne sort pas d'Égypte en bloc. On peut sortir certains degrés de nous-mêmes d'Égypte, mais il peut se passer une chose, c'est que d'autres degrés de nous-mêmes restent encore en Égypte et il faut qu'on les délivre. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il y a eu une discussion dans la Gemara, quand est-ce que le monde a été créé ? Alors, les uns nous disent le mois de Tishré. Et d'autres nous disent, Rabbi Yoshua, le mois de Nissan. Et il y a une discussion. Et je vous pose la question, lorsque le monde est créé, il y a déjà des mois, il y a déjà du temps. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsque Dieu crée le monde? Il n'y a pas encore le temps, il n'a rien créé. La réponse est simple. C'est quelle qualité aura la création? Est-ce qu'elle aura la qualité de ce qui dans le futur va s'appeler Tishré? Ou la qualité de ce qui dans le futur va s'appeler Nissan? Et les Chachamim nous disent que le potentiel, la grossesse du monde, de la création, était symbole Tishré. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, nous disons Ayom Harat Olam, Harat Herayot. Nous sommes dans la grossesse du Olam, du monde. Alors qu'à Nissan, 6 mois plus tard, nous sommes dans l'accouchement du monde. Ça veut dire que le monde tel que nous le connaissons, physique, matériel, réalisé, est sorti au printemps. Et donc, la Torah, sur quel mois elle va appuyer pour nous dire que c'est le début de ce qui concerne Israël, Tishré ou Nissan?
Nissan.
Pourquoi? Parce que dans le peuple d'Israël, entre guillemets, ça ne nous intéresse pas ce que Dieu était avant de se révéler à nous. On ne cherche pas à savoir ce que Dieu est au-delà de sa réalisation envers nous. Donc nous ne nous occupons que d'un Dieu qui se réalise et nous ne nous occupons pas d'un Dieu qui est infini. On n'a pas le droit de s'occuper du Dieu infini, on a le devoir de s'occuper du Dieu réalisé, manifesté. Moralité, le peuple d'Israël considère le Dieu, le divin, comme un être qui a une propriété et un rapport avec sa propriété. Pas un Dieu qui a créé le monde potentiel, omniprésent, mais on ne sait pas, on n'a pas de sensation. Mais ce qui nous intéresse, c'est un Dieu qui a créé le monde, mais qui a un rapport direct avec le monde et qui le fait vivre. Et c'est pour ça que nous disons « Baruch Hamakom » Baruch Hu, Baruch Hamakom. Qui est appelé Makom? Akadosh Baruch Hu est appelé Makom. Pourquoi il est appelé Makom? Tout simplement parce que il est Mekayem. Il réalise et il fait vivre le monde qu'il est en train de créer. Donc jamais vous allez voir dans les premières paroles de Donda Torah, les 10 commandements, je suis l'Éternel qui a créé le monde. Ça n'intéresse personne, mais je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Incroyable. Anochi Hashem Elohecha, Asher Otzeticha Me'eretz Mitzrayim. Pourquoi? Parce que Dieu nous éduque, pas à quelque chose que j'ai fait quand il n'y avait personne encore, mais quelque chose que j'ai fait et que tu puisses recevoir le fruit de mon action. Donc un Dieu moussari, un Dieu éthique, un Dieu moral, qui va transformer l'être, qui va le faire vivre, et qui va faire entrer en lui toute l'énergie, et pas un Dieu qui a juste créé le monde. Ça n'intéresse personne. On sait très bien que c'est Dieu qui a créé le monde, mais c'est pas ça qu'on réalise. La réalisation véritable, c'est comment il se dévoile à autrui. Ça m'éduque à moi. On s'en fiche complètement de ce que tu as dans la tête, mais comment tu te réalises vis-à-vis des autres, et quel est le lien avec autrui. C'est ça la véritable force du mois de Nissan. Moralité, et je reviens tout à l'heure, quelle est la qualité de ce mois? Le chesed, la bonté, la gedoula. Donc le Shabbat qui précède Pessah s'appelle le Shabbat du chesed, Shabbat Agadol. Le Shabbat qui va, avant de nous faire sortir d'Égypte, nous mettre à l'épreuve combien je suis capable de m'intéresser à l'autre. Ça veut dire que ne sortent d'Égypte que ceux qui sont capables de s'occuper des autres. Et ceux qui sont égoïstes font un seder pour leur ventre et pas pour la sortie d'Égypte. Ça veut dire que le premier ennemi de l'homme, c'est son égoïsme qui va l'empêcher de sortir de son Égypte. Il est enfermé dans une Égypte, même s'il fait le seder tout entier et qu'il chante toutes les chansons qu'il y a marquées dans la Haggadah, il n'est pas sorti. Et il faut réaliser cette sortie-là. que je viens de dire maintenant avec d'autres mots, c'est tout simplement le secret de la Emouna. La Emouna, un terme extraordinairement immense, qui est la base de toute l'étude que nous devons aujourd'hui développer, que nous avons mis de côté trop de temps pour d'autres études. Je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'est de réaliser cette Emouna, qui en réalité, et je le résume vraiment sur un pied, le secret des liens entre Dieu et sa création. Avec quelque chose à ne pas oublier, c'est que jamais ce lien commence par l'homme, jamais. C'est toujours un lien qui commence par Dieu. Et tout homme qui parle, qui veut chercher Dieu, c'est de la avoda zara. Pourquoi ? Parce que tout homme qui veut chercher Dieu sous-entend que Dieu n'est pas en lui. Donc c'est déjà le premier degré du problème. Tout ce que nous devons faire, c'est tout simplement laisser Dieu, qui est déjà omniprésent, nous traverser. Donc nous devons nous ouvrir, tout simplement. On n'a pas à quitter ce monde, on n'a pas à aller nulle part ailleurs pour chercher un Dieu. Sous-entendu, il n'est pas là, il est quelque part. Et en plus de ça, tu le limites à ton cerveau et à ta recherche. Avodah Zara, à l'état pur. Le judaïsme, c'est exactement l'inverse. C'est Dieu qui descend vers nous. Ze hashar l'Hashem, tzadikim yavou bo. Voici la porte de Dieu, les tzadikim rentrent par cette porte. Ceux qui ne comprennent pas ce verset se disent, ben voilà, regarde les tzadikim, rentre. Non, c'est d'abord la porte de Dieu. Zéachar l'Hachem. C'est lui qui rentre. Et une fois que Dieu est rentré par cette porte qui lui appartient, Zéachar l'Hachem, alors tzadikim yavobo, alors maintenant qu'il est descendu, tu peux le recevoir. Et donc Dieu est descendu sur le mont Sinaï, et ce n'est pas nous qui sommes montés vers le ciel. D'accord ? Donc Dieu utilise le moyen, le biais Israël pour se réaliser. Bishvil, Israël, Nivra Ha'olam. Bishvil qui veut dire, pas pour, Bashvil Shel. Dans le chemin, Shvil c'est un chemin, sur la route d'Israël, le monde a été créé. Autrement dit, j'ai un canal qui s'appelle Israël et Dieu, par ce canal, en utilisant le canal Israël, qui s'appelle Shvil, Bashvil Azé, Nivra Ha'olam. Et chacun de nous doit dire « Bishvili Nivra Ha'olam » pas pour moi le monde a été créé, mais par moi. C'est-à-dire Dieu, en me traversant, crée le monde. Donc je suis responsable de tout. L'intelligence divine est tellement grande qu'elle utilise en fait Israël. Et donc elle nous met dans une situation d'associé. Si la création du monde passe par moi, donc je suis responsable aussi de cette création maintenant. Je suis devenu associé dans cette création, donc je dois imiter le divin, devenir moral, éthique, comme le divin, car sa descente dans ce monde, ce n'est pas pour nous donner une Torah, mais pour nous rendre bons, pour dévoiler cette lumière, et pas pour connaître encore quelques pages de Gemara. C'est très important de les connaître, mais ne pas se perdre dans ces pages, mais savoir que c'est la vie qui est à l'intérieur de ces pages qui est importante. Et donc le premier degré, c'est le don. Dieu est un donneur. Et lorsqu'il est donneur, ça veut dire qu'il s'occupe d'autrui. Donc c'est un Dieu sympathique. C'est pas un Dieu menaçant, c'est pas un Dieu infantile, comme certaines religions le développent. Et malheureusement, comme certains d'entre nous s'arrêtent au niveau du Dieu infantile qui frappe et qui punit, mais un Dieu qui est bon et qui donne, et qui tout simplement veut nous rendre bons, donc il nous multiplie la lumière, en l'occurrence la Torah et les mitzvot. C'est tout. Pour nous réaliser, pour nous aider à nous réaliser encore mieux. Et lorsque tu fais quelque chose de pas bien, c'est pas contre Dieu que tu fautes, c'est contre toi-même. Et c'est toi-même qui te punis. Donc nous avons un lien qui ressemble à ce lien-là entre l'homme et son prochain. Ce que je veux dire par là, ça nous engage à la chose suivante, c'est que le Seder de Pessah doit nous enseigner premièrement, avant tout, l'amour de l'homme. En hébreu, izdahu. Je m'identifie à l'homme. Et si je ne sais pas m'identifier, je ne peux pas passer un Seder de Pessah, parce que Seder, c'est une remise en ordre. Son nom l'indique. Seder Pessah, je dois remettre les choses en ordre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le monde? Quelle est l'énergie qui circule dans le monde? Et comment je réalise ce degré-là? Et le Rav Kook Zatzal va utiliser ce terme du printemps, du Aviv, qui, juste pour les jeux de mots, Aviv veut dire le père, Av, de Yud Bet Rodashim, des 12 mois. Donc Aviv, Av Yud Bet, c'est le mois qui est la matrice ou le père des 12 mois de l'année, donc Rosh Hashanah la Melachim, c'est le nouvel an des rois. Qui c'est le roi? Kadosh Baruch Hu. Donc lorsqu'un roi a été nommé dans le peuple d'Israël, même si on l'a nommé un mois avant, lorsque le mois de Nissan arrive, on lui compte un an. Moralité, tout le messianisme d'Israël est codé à l'intérieur de ce mois de Nissan, qui est le père des 12 mois. Et le Rav Kook, Alav HaShalom, Zechutot Hagena Aleinu, écrit dans Megedi Rachim, dans un livre sur Nissan, sur les mois de l'année, Yetziat Israël mi Mitzrayim, la sortie d'Israël de l'Égypte, Tishaer la'ad, va rester jusqu'à l'éternité. Quoi? Ha'aviv shel ha'olam kulo, le printemps du monde tout entier. Écoutez bien ce que le Rav Kook dit ici, c'est une clé extraordinaire pour que nous, aujourd'hui, puissions à notre tour sortir d'Égypte. Puisqu'il ne s'agit pas, bien entendu, de faire de l'imitation ou de répéter des mots qui ont été vécus à d'autres périodes, mais de réaliser notre propre sortie. Et si je ne sors pas d'Égypte aujourd'hui, cette année, alors qu'est-ce que je fais? Je répète une histoire de mes ancêtres qui sont sortis d'Égypte. L'une des clés de la sortie d'Égypte, Chayav Adam, Irot, Oleharot, selon le Rambam ou la Mishnah, et atzmo keiluhu yatsa mimitzrayim. Si tu n'as pas compris que c'est toi qui sors d'Égypte, alors ça ne sert à rien, tu es en train de faire une mimique. Et il aurait fallu et peut-être juste une petite ampoule pour te dire Chag Sameach, rappelle-toi qu'il y a 3300 ans tu es sorti d'Égypte. Non, tu dois maintenant, au présent. Alors qu'est-ce que le Rav vient nous dire dans ce qu'il est en train de nous dire, dans ce qui est codé là? Que la sortie d'Israël d'Égypte va rester jusqu'à l'éternité le printemps du monde tout entier. Pour comprendre ce petit texte du Rav Kook, il faut aller dans un autre livre, dans Olat Re'aya, deuxième livre, à la page 268. Je vous lis et je vous traduis ce que le Rav dit là-bas pour expliquer ce qu'il a dit dans l'autre livre. Il ou lo hotzia Kadosh Baruch Hu et avotenu mimitzrayim lecherut olam. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas fait sortir nos ancêtres dans une geoula, dans une libération, cherut olam, définitive. Écoutez bien, définitive. Nous sommes sortis d'Égypte définitivement. Autrement dit, les gens qui nous disent « Oui, mais après on a eu d'autres exils. » Non, ce n'est pas la même chose. La sortie d'Égypte était une sortie définitive. Car qui a été libéré en Égypte? L'âme d'Israël. Les autres exils sont au niveau du corps d'Israël. L'âme d'Israël a été libérée une fois pour toutes. C'est fini. Ça ressemble à quelqu'un qui a gagné un grand prix, beaucoup d'argent. Et comme il n'avait pas d'éducation, il s'est payé les meilleurs professeurs du monde pour lui enseigner tout ce que ses parents n'ont pas pu lui payer lorsqu'il était petit. Et lorsqu'il arrive à 70 ans, à chaque jour du gain où il avait gagné cette fameuse loterie, il fait une fête. Et ses petits-enfants lui disent « Mais papy, c'est où l'argent ?» Il dit « L'argent est déjà parti depuis longtemps, il n'en est plus. » Il dit « Mais alors pourquoi tu fais une fête ?» Il dit « Parce que toute la connaissance que j'ai eue, c'était grâce à cet argent que j'ai gagné à telle période. Je continue à fêter, même si l'argent n'est plus, j'ai eu la connaissance. » La sortie d'Égypte nous a donné la connaissance, nous a donné la libération de la Neshama d'Israël. Et même si dans les autres exils, nous allons être corporellement coincés, et ça c'est un grand secret, c'est un autre cours à part entière, de savoir qu'est-ce que nous libérons aujourd'hui, car si l'âme d'Israël a déjà été libérée, Moraï Berabotai, l'exil dans lequel nous sommes maintenant, qui est le dernier, nous sommes en train de libérer nos corps. Et pas notre âme. Et c'est pour ça que lorsque l'autre est arrivé en disant « Je suis venu libérer vos âmes », on lui a dit « Shalom Aleichem, tu t'es trompé de siècle, notre âme a déjà été libérée, c'est pour ça qu'on a vu que c'était un faux messie. » L'âme d'Israël n'a pas besoin d'être libérée, il n'y a que notre corps qui a besoin d'être libéré, et c'est pour ça que nous sommes revenus à notre corps national. Si nous n'avions pas été libérés, Hare kol ha'olam kulo, dit le Rav, tout le monde entier, ve kol seder chaye ha'adam, et tous les ordres de la vie, le rythme de la vie de l'homme, hayu nisharim al mekomam bilti hishtanu, serait resté sans changement, gelé. Ve kach haya nishar ha'shi'abud le'oto paro be'mitzrayim. Et on aurait été encore, aujourd'hui, chez le même pharaon en Égypte. Il y a ici quelque chose, une clé, vous n'avez pas le texte devant les yeux, mais c'est extraordinaire. Le Rav est en train de dire ici qu'en réalité, la véritable liberté, elle consiste dans le mouvement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de possibilité de changer, il y a exil. Il y a des gens qui sont exilés de quoi ? De leur système de pensée. Ça veut dire qu'ils ne veulent rien recevoir d'autre que leur idéologie fermée. Et ils sont dans un Égypte mental qui les a sclérosés dans un système de réflexion et de pensée. Je l'ai dit dans d'autres situations, des gens qui ont vécu un certain traumatisme à un certain âge de leur vie, et qui n'arrivent pas à changer pour sortir de ce traumatisme, sans rester coincés dans une Égypte de ce traumatisme à l'âge de 6, 7, 8, 20 ans. Et sont encore là-bas, ne sont pas sortis d'Égypte. La capacité à sortir d'Égypte, c'est la capacité au changement. Or, qui dit changement dit obligatoirement notion de temps. Car le temps permet le changement. Moralité, le temps nous a été donné cadeau. Je vous offre le temps. Non seulement le temps, mais la matrice du temps. Le premier mois de l'année qui, ici, j'ai déjà la tête du temps, j'ai tout le corps du temps. Ça veut dire que le temps appartient à Israël. C'est pour ça qu'Israël peut gérer le temps comme il veut. Si je fixe que Rosh Chodesh, c'est maintenant, et bien Pessah va complètement changer parce que le tribunal d'Israël a décidé que Rosh Chodesh, c'était tel jour et pas un autre. Et même si le tribunal fait exprès de se tromper, le Rosh Chodesh aura été décalé d'un jour ou deux, et bien Pessah sera décalé d'un jour ou deux. Extraordinaire. C'est-à-dire que le temps appartient à Israël. Mekadesh Israël ve'azmani. C'est Israël qui sanctifie le temps. Regardez ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour notre naissance. Donc, qui dit temps dit changement, et qui dit changement dit développement, avancer, marche. Ça veut dire que ceux qui ne marchent pas, ceux qui sont fermés, ceux qui sont obtus, ceux qui sont coincés dans un système, ne peuvent pas se libérer. Et c'est pour ça que le judaïsme utilise et comprend le temps comme une possibilité d'amélioration. À chaque fois que nous avons des temps, des zmanim, nous pouvons nous changer. À chaque fois qu'il y a un Rosh Chodesh, qui est la fête la plus fréquente de toute l'année. Okay? À part le Shabbat qui n'est pas une fête, qui est un Yom. Nous avons Rosh Chodesh une fois par mois. Chodesh veut dire Hadash. Nouveauté. Si tu ne sais pas te remettre à neuf Rosh Chodesh, tu vieillis et tu vas vers quoi? Vers quelque chose qui en hébreu se dit balé bekalé, c'est-à-dire la fin du corps. Tout corps a une fin. Et donc tu vas tomber, sombrer dans un pessimisme de la vie où le temps ne nous approche que de la mort. Or, le judaïsme, c'est exactement l'inverse. Le judaïsme nous permet de nous renouveler pour atteindre le degré de l'éternité. Et ça, c'est l'amélioration de l'homme, c'est-à-dire il va vers lui-même, vers la réalisation de laquelle nous avons parlé tout à l'heure. Si à l'âge de 70 ans, je me suis un petit peu mieux réalisé qu'à l'âge de 40 ans, alors j'ai encore avancé vers moi. Non vers la mort, mais vers la vie, parce que je me dévoile complètement. Donc le temps nous permet de nous construire. Et donc celui qui n'avance pas, reste esclave. Esclave de qui ? De ce pharaon et de cette Égypte. Bien entendu, il ne faut pas laisser Paro et Égypte à leur premier degré. Il faut comprendre que le pharaon est un degré de conscience et que l'Égypte est un degré de conscience. Et si tu restes coincé dans ces deux degrés de conscience, alors tu as beau faire le Seder de Pessah, chaque année, tu dis des mots et tu restes coincé dans tes Égyptes. Donc chez nous, le futur est un optimisme. Le passé est une construction par laquelle je construis mon futur, et le présent, c'est mon vécu. Et donc, toute graine qui est restée gelée, et j'ai pris une semence, et je l'ai congelée, cette semence-là, elle est appelée être en Égypte. Si cette semence est plantée là où elle doit être plantée, pour donner ou l'arbre ou l'enfant qu'elle doit être, alors c'est la sortie d'Égypte. Vous comprenez ce que fait le pharaon ? Il prend les graines et il les remet dans leur état initial. Donc, lorsqu'un enfant naît, il le remet dans l'eau. C'est-à-dire, au lieu qu'une graine se développe et devienne un homme, il la replonge dans le liquide de laquelle elle est venue. Donc, il fait marche arrière et il nous ramène vers un monde de non-vie. Alors que le judaïsme, c'est un monde de construction de souvenirs, de mémoire. Donc, Zachar, kol ha-ben ha-yilot, ha-yehora tashlichu, ve kol ha-bat te-chayim. Les filles, on peut les laisser vivre. Les garçons, qui sont la mémoire du nom, il faut les remettre dans l'état initial pour les étouffer avant qu'ils soient nés. Et donc, tout l'Égypte, on peut la comprendre maintenant de la manière suivante. C'est... Il y a quelqu'un qui m'a mis son portable et qui sonne. Très sympathique. Donc, l'identité... Égypte, c'est l'identité qui n'arrive pas à se dévoiler. Donc, qui n'arrive pas à vivre. C'est l'identité étouffée. En hébreu, c'est très simple. Mitzrayim, c'est la prison, Metzah, Shel, Mi. Ou Maï, la même chose, mais on a déjà utilisé le même, donc la prison de l'identité. Mi, en hébreu, qui es-tu ? C'est l'identité. Donc si ton identité, ton mi, est ton metzar, est dans l'étroitesse, tsar, vous connaissez tsar pat ? C'est la traduction de pat. Pat, c'est la farine. Pat. Donc tsar pat, la farine étroite, la baguette. C'est mamash plutôt que mashmao. Donc, Metzraim, ça veut dire la prison de l'identité. Tu ne peux pas te dévoiler. Tu ne peux pas sortir de ce que tu es. Tu as un potentiel Israël, mais il est étouffé dans ce Metzar. Et ce Metzar-là, il est Metzer les Israël. C'est-à-dire, il est étouffant, il est l'étroitesse, il coince Israël et le met dans, il le sclérose. Dans un système qui ne lui permet pas de se développer. Au moment où cette graine sort, Israël sort d'Égypte. c'est la première fois qu'il y a une libération en fait dans le monde, et c'est ce que dit le Rav Kook, au moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte, c'est la clé de toutes les sorties dans tous les domaines chez tous les peuples. Ça veut dire à partir de ce moment-là, de cette journée très précise du temps de la sortie d'Égypte d'Israël, on a ouvert la porte à toutes les capacités dans le monde, dans tous les domaines du monde, de se dévoiler, de sortir. Et donc Israël est devenu le printemps du monde entier. Donc la sortie d'Égypte du monde entier. Et d'ailleurs, je vais vous dire un secret, par oral, parce que Israël est sorti et lui pas encore. Ça veut dire que même Paro rêve de sortir de son Égypte. Et il court après ceux qui ont réussi à sortir. Comme ceux qui vous courent après quand vous faites votre alia. Parce que quelque part en eux, ils sont fiers de vous et ils auraient bien voulu le réaliser aussi. Mais ils sont encore dans un état étouffé qui n'arrive pas à réaliser la chose. Et même si vous leur dites que c'est difficile, que c'est compliqué, ils en ont peur, car le bébé préfère le ventre de la mère que le contact dur avec le lit quand il sort du ventre de sa mère. Malgré tout, nous savons très bien que l'enfant dans le ventre de sa mère risque de mourir, alors que lorsqu'il sort, même si c'est plus dur, il est déjà dans la vie. Donc nous avons ouvert la porte à toutes les ouvertures, à toutes les sorties. Et donc, la graine commence à pousser. La graine commence à pousser, ça veut dire qu'il y a une nouvelle éthique dans le monde, un nouveau moussa. On dit à tout le monde, sans leur dire, mais juste par notre sortie, par notre réalisation, il y a un optimisme, on peut réussir dans la vie. Et c'est ce qui se passe lorsque les gens vous voient avancer. Ils se disent, regarde, il est en train de faire ce que moi j'ai toujours rêvé de faire. Donc tu lui donnes une force de lui aussi se réaliser à son tour. Tu n'as même pas besoin de le convaincre. D'ailleurs, à chaque fois que vous partez en voyage en France, ça ne sert à rien de parler aux gens. Quand vous leur parlez, ils se sortent. Mais quand vous ne dites rien, ils se sentent mal à l'aise et ils viennent vous dire, tu sais, moi aussi, j'ai envie de sortir, j'ai envie de venir. Tu dis, mais je t'ai rien dit, moi. Pourquoi tu me parles de ça? Le fait que tu sois ici, ça suffit. Ta vie ici, ton amour de cette terre, suffit pour convaincre, plus qu'encore que des paroles. Bien entendu, il y a un mariage avec la nature, puisque Dieu a créé une nature, et il a fait en sorte que dans le mois du printemps, il y a la terre qui va donc sortir, tout va éclore. La même chose, le peuple d'Israël s'est dévoilé au monde dans le mois du printemps. C'est pour ça que Pessah, contrairement à toutes les religions, qui sans arrêt change d'époque, nous gardons Chodesh Ha'aviv, Pessah, ça s'appelle Chag Ha'aviv, obligatoirement. Et donc on rattrape le système solaire et lunaire pour tomber toujours dans les mêmes périodes. Et c'est pas possible que, comme dans le Ramadan, les Havdil, un coup ça se passe en hiver, un coup on prétend, un coup en été, et ça tourne. Okay? Le temps respecte l'atmosphère. Pourquoi? Parce que c'est un temps qui permet l'éclosion. C'est un temps qui permet à la fleur de s'ouvrir, de s'épanouir. Et donc c'est pour ça que le Rav Kook va appeler la Géoula de la sortie d'Égypte Ha'aviv, Ha'aviv Shel Ha'olam, le printemps du monde tout entier, pas seulement le printemps d'Israël. Encore une fois, parce qu'Israël est un modèle pour le monde. Si quelqu'un un jour est sorti, donc Israël, alors on peut sortir nous aussi. C'est-à-dire le passage de la graine au volume a été réalisé pour la première fois dans l'histoire. Et donc Israël est sorti, a causé que la notion de liberté a été captée dans le cœur et dans l'âme, dans l'esprit des hommes. Sans cette sortie d'Égypte, les hommes seraient restés dans des états étouffés, à rester coincés dans des systèmes. Et donc, l'histoire de la sortie d'Égypte que nous racontons, C'est pas seulement une histoire du passé, c'est une histoire qui agit. C'est-à-dire, lorsque je parle de la sortie d'Égypte, c'est tout simplement que je suis en train de réaliser moi aussi une capacité, une action sur mon être tout entier qui me renouvelle la capacité à sortir. Je dis des choses optimistes, je rappelle une histoire optimiste et je me prouve à nouveau dans le temps moderne dans lequel je suis que malgré toute la situation qui m'étouffe, moi aussi je peux sortir et je sors. Donc c'est une réalisation actuelle de l'histoire que je suis en train de me raconter. Et oi va avoy, si on raconte aux enfants qu'un jour nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Tout à l'heure nous allons le voir un petit peu plus précisément. Ça ne sert à rien de s'arrêter à l'histoire de l'Égypte, vous comprenez bien. Il faut à partir de l'histoire de l'Égypte, puisque c'est la graine de départ, expliquer à nos enfants... Je vais un petit peu plus loin, à l'enfant qui est en nous, à celui qui est encore enfant à l'intérieur de nous-mêmes, que toi aussi tu peux te réaliser, toi aussi tu peux grandir, toi aussi tu seras grand. Tu ne dois pas rester un homme parvé, tu dois devenir le meilleur. Et toutes ces réalisations, cette capacité à voir la réussite, la sortie, le dévoilement de moi-même, et d'ailleurs, toutes les sociétés qui se sont réalisées sont des sociétés qui ont pris connaissance de la sortie d'Égypte. Les sociétés qui ont eu la connaissance de la sortie d'Israël d'Égypte sont des sociétés qui ont avancé. Les autres sont restées primitives. Ça veut dire quoi? Celui qui a pris conscience du printemps d'Israël, lui aussi, à son tour, comme modèle d'imitation, a dit, moi aussi je vais sortir. Si Israël est sorti, je vais sortir à mon tour, car Israël est sorti pas pour lui, mais pour l'autre. Et c'est pour ça que nous disons Yetziat Mitzrayim. En hébreu, c'est très clair. Si on devait dire la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire la sortie d'un endroit qui s'appelle Égypte vers l'extérieur, on aurait dû dire Yetziat Mitzrayim. Or, Yetziat Mitzrayim, c'est l'Égypte qui sort. Mitzrayim chez Yotzi. Donc je dois en réalité libérer l'Égypte de son Égypte. Mais pour l'instant, j'ai libéré qu'Israël de l'Égypte. Et l'avenir va réaliser la libération de l'Égypte tout entière. Je vous le dis avec des mots simples. Nous avons été libérés mentalement, spirituellement. Nous sommes responsables maintenant de la libération du monde tout entier. Et tous ceux qui ne sont pas libérés encore nous en veulent parce que vous, vous êtes sortis d'Égypte et vous nous avez laissés encore. Donc nous avons une réalisation à partir de nous-mêmes, de notre réalisation à nous, de notre sortie à nous. Nous devons tirer, être le modèle, oh, la Goïm, la lumière de toute nation pour leur montrer où se trouve la lumière, comment on se réalise, comment on va réaliser le divin, jusqu'à ce que nous allons réaliser ce qui a marqué dans Alenu le Shaber, que l'etaken olam be malchut shaddai, tout entier, tout le monde, ki beiti bet tefila ikarel et kol amim. Le Bet Amidash n'est pas une synagogue améliorée pour le peuple d'Israël, c'est pour toutes les nations du monde. Et donc maintenant, ça nous explique pourquoi nous fêtons des fêtes du passé. Et qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, des fêtes du passé? Elles sont passées. C'est fini. En fait, des fêtes d'il y a 3500 ans, en quoi ça me concerne aujourd'hui? Tout simplement parce que le judaïsme ne s'intéresse pas au passé parce qu'il est passé. Il s'intéresse au passé qui a un lien avec le futur. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est-à-dire que la nuit du Seder de Pessah, si ça n'avait pas de lien avec le Mashiach, on n'aurait pas fêté cette nuit-là. C'est-à-dire que la Torah ne nous donne rien qui est au niveau du passé pour rester dans le passé. Comme aucune prophétie qui ne doit pas être utilisée pour la fin des temps, cette prophétie n'est pas écrite. Il y a des prophéties qui n'ont pas été écrites. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de rapport avec la fin des temps. Toutes les prophéties qui sont inscrites dans la Torah et qu'on a gardées, Ce sont des prophéties qui vont se réaliser jusqu'à la fin des temps. Toutes les fêtes qui ont un rapport avec la fin des temps sont encore inscrites dans notre calendrier. Et c'est pour ça que le soir du Seder, je dois faire le lien automatiquement avec le messianisme d'Israël. Et si je n'ai pas compris ça, alors je suis en train de dissocier des étapes. J'ai l'impression que la sortie d'Égypte, c'était une libération, et que la venue du Mashiach, c'est une autre libération. Faux. C'est la même libération qui a commencé là-bas et qui va se terminer ici. Et nous avons un seul Mashiach, celui qui a ouvert la porte, Moshe, dans son corps, et celui qui va terminer Mashiach, Melech HaMashiach, qui est ni plus ni moins qu'un Moshe version 2006, 2008. Okay? Amen. Alors si c'est comme ça, on a un problème. Au moment où le futur, écoutez bien, au moment où le futur se réalise, la fête doit s'arrêter. Puisque nous avons dit que la fête tient parce que nous avons un lien avec le futur. Mais si je suis en train de vivre déjà le futur, ma fête n'a plus raison d'être. Et c'est exactement ce que les Chachamim se posent comme question dans la Gemara de Brachot à la page 12. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Amar lahem ben zoma la Chachamim, ben zoma a dit aux sages, vechi maskirim yetziat mitzraim le'atid lavo. Est-ce qu'on va continuer à raconter la sortie d'Égypte à la fin des temps? Si moi j'avais posé cette question, vous m'auriez dit... Ah là, il exagère quand même. C'est une question dans la Gemara. Ça veut dire jusqu'à quand on raconte la sortie d'Égypte? Ve'alone Emma et Benzoma, pour étayer ses paroles, pour renforcer ses paroles, il nous cite un verset de Yirmiyahu 23. Voici des jours arrivent, je le jure par mon nom, dit Akadosh Baruch Hu. On ne dira plus. Une prophétie. Chai Hashem, Dieu vivant, merci. Asher Elaïd Bnei Israël, Meretz Mitzrayim, qui nous a fait sortir, monter de l'Égypte. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va oublier, c'est fini. Ki im, on va dire à la place. Chai Hashem, Dieu vivant. Asher Ela, qui nous a fait monter, Aliyah. Ve'asher Evi et Zera Bet Israël, qui a amené la semence de la maison d'Israël, d'où? Me'eret Safona, des pays du Nord. L'Europe. Mikol Haratzot et de tous les pays. Asher Idartim Sham, que j'ai éparpillé là-bas. Moralité, la discussion de Ben Zoma avec les Chachamim, c'est tout simplement, lorsque les enfants d'Israël vont revenir de tous ces pays-là, est-ce qu'on va continuer à fêter l'histoire de Pessah, ou est-ce qu'on va changer notre Agada, et on va mettre, il y a 50 ans nous étions à Paris, et nous étions, on va changer l'Agada. Chacun va avoir une Agada de là où il est sorti. C'est ça la question de Ben Zoma. Mais encore plus que ça, dans un hébreu très simple, lorsque la Géoula dernière va arriver, quel est son meilleur signe? Que nous allons être récupérés de tous les pays du monde, de toutes les nationalités, nous rejoindre ici. C'est ça la preuve de la Géoula. C'est ça que dit Ben Zoma. À partir du moment où ça se réalisera, pour eux c'était du futur, pour nous c'est du présent. C'est presque du passé. Nous sommes presque à la majorité du peuple d'Israël en Israël maintenant. Pratiquement, il y a des lettres qui arrivent jour après jour pour nous dire que le judaïsme en dehors d'Eretz Israël est en train de mourir, malheureusement. De cette manière, mourir malheureusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en plein dans ce que les Chachamim nous disent dans la Gemara de Brachot. Lo yekvar tzorech leazkir et shichur Israël mi Mitzrayim. On arrivera à une époque, on n'aura même plus besoin de rappeler la sortie d'Égypte, ça sera trop passé pour nous. Mais on va rappeler ma sortie de Nice, et ta sortie de Marseille, et ta sortie de Paris, et ta sortie de Toulouse, et ta sortie de là où tu veux, de Los Angeles, et de Hong Kong, et de tout ce que tu veux. C'est ça la véritable sortie d'Égypte. Rabbi Nachman le dit. Kol Eretz, Michutz le Eretz Israël, Ikret Mitzrayim. Chaque pays en dehors d'Eretz Israël s'appelle l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il t'étouffe. Il ne te réalise pas en tant qu'Israël. Tu rases les murs. Tu n'es pas toi. Tu es au niveau individuel. Tu n'es pas au niveau du peuple. Moralité, lorsqu'on se libérera, alors il y aura une nouvelle libération. Cette nouvelle libération va prendre la place de l'ancienne libération. Et en réalité, quand vous regardez les halakhot du messianisme d'après le Rambam, qui est pratiquement le seul qui nous a donné des halakhot concernant le messianisme d'Israël, quelle est la différence entre l'exil et la délivrance pour le Rambam? Une seule chose. Lorsqu'on sera libéré au niveau national et qu'on aura la liberté, donc une indépendance. Tout simplement. En ben dit le Rambam, quand on ne sera plus assujetti aux nations, on sera au niveau de la Géoula. Aujourd'hui, même si nous avons encore des dépendances, nous ne sommes plus assujettis aux nations. Alors nous avons des affaires, nous avons des intérêts, alors on fait comme ci, comme ça, mais ce n'est plus la même chose. Je sais qu'il y a encore des gens qui refusent de le voir. Malheureusement, il y a toujours des gens qui refusent de voir les choses. Et c'est pour ça que nous avons une tefila spéciale. Vetechezen a'enenu beshuvcha l'etzion berachamim. Akadosh Baruch Hu, ouvre-nous les yeux quand tu vas faire ta geoula, parce que certains d'entre nous vont continuer toujours à fermer les yeux. Et jamais ils verront la geoula. Qui a déjà commencé, qui est déjà en plein, et ils se posent encore la question. Parce que des gens attendent Disneyland. Des choses qui viennent, je ne sais où. Ils ne comprennent pas que le processus est là devant nous et qu'on le vit. Personne ne vous a dit que la Géoula, ça va être tranquille. Au contraire, la Gemara nous dit que la Géoula, ça va être très difficile, on y est. Et donc la dernière délivrance, notre rassemblement de toutes les nations du monde, ça va nous donner une vision beaucoup plus large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sortie d'Égypte va prendre une petite place. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit le kibbutz Galouyot, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti de combien de pays? Un seul. Aujourd'hui, on sort de plus de 100 pays en Israël. Sachez-le. Il y a 100 pays qui ont donné leurs juifs. Extraordinaire. De toutes les formes, de toutes les couleurs. Nous sommes en train de sortir. C'est 100 fois plus fort que la sortie d'Égypte. Où là-bas on est sorti d'un seul pays. Là on sort de 100 pays. Et surtout lorsque le prophète nous dit « Mais Eretz Tzafona » Qu'est-ce que c'est Eretz Tzafona ? Roussia, nous disent les commentateurs. Incroyable. Même s'il y a tous les problèmes qu'il y a, même quand on est sorti d'Égypte, je vous garantis, ce n'est pas aussi simple. Bien, alors les gens qui râlent sur certains qui ne sont pas, on ne sait pas ce qu'ils sont, la même chose au niveau de la sortie d'Égypte, ça nous a fait quelques problèmes en route, Nachon. Et ça nous fait aussi quelques problèmes en route. Tout notre chemin de délivrance est pavé de problèmes. Et de malas. Ça fait partie de notre délivrance. Ceux qui veulent se reposer, c'est pas ici. On est dans un processus de travail, on doit bosser, et on doit être optimiste. Et même quand on tombe, on doit se relever, c'est tout. Et continuez à marcher. Ça ne sert à rien de se lamenter quand vous tombez, que vous commencez à vous lamenter sur un degré. Je vous rappelle, vous restez coincé dans le même degré. Il y a des gens qui psychologiquement restent dans certains degrés où ils sont tombés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on n'a pas le temps. Tais-toi et marche. Avance. Ki besimcha tetzeu, car vous allez sortir avec joie. Et donc il faut se forcer et voir dans chaque chose la lumière divine, comment elle se manifeste, et arrêter de râler pour chaque chose. Et c'est pour ça que Ben Zoma dit, lorsque le rassemblement des exilés d'Israël va commencer à se réaliser devant nos yeux, et, ça, et je ne suis pas en train de vous raconter, je ne sais pas si vous réalisez, je suis en train de vous dire le futur de nos sages. S'ils étaient là, si Ben Zoma était là, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, merci d'avoir réalisé tout ce que je suis en train de dire. 2000 ans plus tard. Et moi, Yoel, je suis en train de vous dire ça. Et personne ici peut me contredire. On est en train tous de monter en Israël. Extraordinaire. Ça veut dire, lorsqu'on va se libérer du joug des nations, ça va être l'essentiel. C'est ça la Géoula. La fin des temps, et je vais choquer quelques-uns. Donc la fin des temps, c'est le jour de l'indépendance, c'est Yom HaAtzmaout.
C'est tout.
Tout simplement. Ça veut dire que Yom HaAtzmaout va devenir l'essentiel. Et ça va être en souvenir de quoi? De la sortie d'Égypte. C'est la même chose. On est sorti d'Égypte, en fait, un jour, pour arriver à l'indépendance de l'État d'Israël de nos jours. C'est ça le vrai secret. Et d'ailleurs, les Chachamim acceptent les paroles de Ben Zoma, alors qu'ils sont en machloket avec lui. Ils lui disent, tu as raison, Ben Zoma. Mais, Ella, Shetehesh Ibud Malchuyot Ika, on est d'accord avec toi que la libération nationale, c'est l'essentiel. Mais, Yetziat Mitzrayim Tafello, garde une petite place dans ta future Agada de Pessah, où juste pendant deux lignes, tu dis, nous sommes sortis d'Égypte. Comme d'ailleurs dans la Agada que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous disons? Avant de commencer l'histoire de la sortie d'Égypte, quelqu'un d'autre est déjà sorti de son exil à lui.
Yaakov,
avec Laban. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Exactement la même chose avec l'histoire d'avant. C'est-à-dire, on a pris l'histoire de Laban, on l'a mise juste deux petites lignes, et on a pris l'essentiel, la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, on va faire la même chose. Deux lignes pour Laban, deux lignes pour Mitzrayim, et tout le reste de la Agada de la version 2008, c'est tout simplement de mentionner, même si elle n'est pas écrite encore, c'est ce qu'il faut enseigner à nos enfants. C'est ça le message qu'il faut passer. Moraï Verabotai, nous sommes en train de réaliser le divin par la sortie de toutes les nations dans lesquelles nous étions prisonniers. J'étais la semaine dernière à Paris, je peux vous dire que je me sentais un prisonnier. Et je parlais aux gens qui m'invitaient, ils me disaient, tu as raison, mais nous on ne regarde même plus. En marche, d'une bulle à une autre bulle. La première bulle s'appelle maison, la deuxième bulle s'appelle synagogue. Aller-retour, en traversant la clipa au milieu. Tu passes de bulle en bulle.
Désambulé.
Conclusion. L'essentiel de la sortie d'Égypte, pour tout le monde, c'est le jour de l'indépendance de Am Israël. C'est ça à quoi on doit arriver. Et Pessah, c'est la graine du passé qui nous a permis, puisque c'est le printemps, par lequel tout a commencé. Donc je ne dois pas l'oublier. Tout le temps, je dois me rappeler que la sortie d'Égypte m'a amené jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que pendant toutes les années, pendant toutes les milliers d'années qu'on a fêté Pessah, c'était pour arriver à quoi? À un état. Tout simplement. On a prié pour avoir un état. Et le jour où on a l'état, on râle. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit que l'état devait être directement messianique? Non. Même l'état, il a des couches culottes. Il commence à devenir un petit peu perturbant, comme un petit enfant qui grandit. Et il nous fait des fugues. Et il nous fait des bêtises. Et on doit venir nettoyer. Il faut qu'il atteigne l'âge adulte pour atteindre sa maturité. Ça prend du temps. Il y a des gens qui n'ont pas de temps. Pourquoi? Ils attendent toujours des dates. Ils ne connaissent pas la notion de processus. Nous sommes dans un processus. Et qui dit processus, dit chute et élévation. De la même manière que lorsque j'élève des enfants, ils ne sont pas toujours très sympathiques. Et pendant toutes les premières années de leur vie, tu te demandes ce que tu es en train de faire vivre. Qui t'y a mis au monde? Jusqu'au moment où ils redeviennent, se rapprochent de toi, et tu te dis, Baruch HaShem, que j'ai vu des bons fruits de mes enfants. Mais lorsqu'ils ont 16, 17 ans, 18 ans, tu commences à te poser des questions. C'est la même chose. Il faut faire très attention, ne pas se perdre dans les difficultés. Et il y en a, et il faut les guérir, il faut les soigner, mais il ne faut pas tout jeter, renverser la chaise et dire « moi je m'en vais de la classe ». Pas du tout, tu es là pour travailler. Et si tu as quelque chose à faire, fais-le. Ça ne sert à rien de râler te sauver. Donc en réalité, notre état, l'État d'Israël, c'est la justification rétroactive de tous les seders de Pessah que tous nos ancêtres ont fait. Extraordinaire. Baruch Hashem, que nous avons eu, Ashrenu, que nous avons eu, nous, les yeux, de voir comme des nains sur le dos des géants. Nous sommes les nains, mais c'est le nain qui cueille le fruit. Même si le géant est un géant, nous avons eu le mérite d'être à cette génération-là. Et là, je rentre dans un autre passage. Parce que le judaïsme, contrairement aux nations du monde, c'est pas un judaïsme qui fait monter en épingle le côté âme, mais âme dans un corps. Et c'est ça la véritable force. Akadosh Baruch Hu, lui-même, aurait pu rester l'infini béni soit-il. Mais quand est-ce qu'il est devenu véritablement ce qu'il est? Quand il a créé le monde. C'est-à-dire en créant la matière, en descendant entre guillemets dans la matière, en faisant une contraction de lui-même, il est ce qu'il est. C'est pas qu'il n'était pas avant, mais il s'est réalisé entre guillemets par la matière. Nous sommes un peuple qui donne une importance à la matière, qui est très importante. Et donc le corps, comme la libération d'un corps, est beaucoup plus difficile que la libération de l'âme. Vous êtes posé la question, pourquoi lorsqu'on boit du lait, on peut manger tout de suite de la viande après? Et quand on mange de la viande, il faut attendre 6 heures. Pourquoi? Parce que le lait est tellement proche de nos qualités d'âme qu'il est absorbé immédiatement. C'est-à-dire que le lait, c'est comme l'âme d'Israël. Le lait, lorsque je le verse par terre, il partage, il donne. Lorsque je prends du lait de la vache, non seulement je ne la tue pas, mais je lui permets de mieux vivre. Et en bochim al chalav shenishpach, on dit en hébreu, on ne pleure pas sur du lait. Le lait, tu le laisses, il ne pourrit pas, il devient un fromage. Il a une continuité. On passe à la viande. La viande, il faut tuer l'animal. Tu la laisses 2 jours, c'est de la pourriture. Ça, c'est toujours un bloc, c'est du sang. C'est-à-dire que pour absorber de la viande, il faut 6 heures. C'est loin de nous. Mais pour absorber du lait qui est tellement proche de nos qualités d'âme, c'est immédiat. Donc lorsque je bois du lait, c'est déjà absorbé, je peux manger de la viande. Mais c'est lorsque j'ai mangé de la viande, je dois attendre 6 heures, car il y a un degré de 6 qui sépare les membres. Ça, c'est déjà de la Kabbalah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la libération de l'âme, elle est très rapide. Et c'est pour ça que la sortie d'Égypte s'est faite de chipazon. Et la sortie du corps, elle doit respecter le rythme du corps. En hébreu, chomer. C'est pour ça que le Mashiach est ani verochev al chamo. Il faut très très longtemps. Et donc, le chipazon est devenu chilazon. C'est une... comment on dit, un escargot. Moralité, nous sommes dans un processus, et celui qui n'a pas la patience, il va devenir fou. La clé aujourd'hui, c'est la patience, c'est le chilazon. C'est chaque processus, tout doucement, et chacun dit « Admatai, Admatai, Admatai okay. ». Ne vous fatiguez pas, travaillez. Arrêtez de vous poser ces questions. Il faut faire le maximum de ce qu'on peut faire, et laisser à Kadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'il a à faire, il ne s'est pas trompé, on n'est pas mieux que lui, à chaque fois on veut prendre sa place, on a l'impression qu'on sait mieux que lui quand est-ce qu'il doit faire les choses. Okay. Laissez-le travailler. Faites ce que vous devez faire. C'est déjà beaucoup de choses.
Chaque jour de Pessah. Pardon, chaque jour de Pessah a son équivalent dans le calendrier, sauf le septième jour.
C'est la Mishnah Broura qui dit ça. La Mishnah Broura nous donne l'équivalence de chaque jour. Vous savez que le premier jour de Pessah, Aleph, c'est dans Atbash, dans un alphabet inversé. Donc le Aleph correspond au Taf. Donc le premier jour de Pessah, Aleph, correspond au Taf, Tisha B'Av. Le deuxième jour de Pessah, Bet, correspond à Shin, Shavuot. Et ainsi de suite. Et on est arrivé au septième jour de Pessah, ça correspondait à un Aïn, mais il n'y avait rien. Maintenant on sait ce que c'est. Atzmaut.
Ouais,
okay.
אתם
רוצים שהשיעור יהיה בעברית? כי אני רואה שכולם שואלים, לא, לא, באמת, אני פשוט... לא רקטון. לקוב. Moi aussi j'ai
bien compris, est-ce que le rab a expliqué que c'est une sorte de réalisation?
Exact.
Est-ce que cette réalisation...
C'est une mise en volume.
Est-ce que cette mise en volume peut être considérée comme une sorte de matière?
Vadaï.
Alors, on a la réponse.
Mais vadaï. Mais vadaï. C'est pour ça que la graine, c'est un potentiel et la mise en matière. Quel est le but du judaïsme? Quel est le summum? Jusqu'où on veut aller?
La
résurrection des morts. D'accord? Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? Encore revenir dans la matière? Tu voulais te sauver?
Oui, mais au-delà de ça, il y a encore autre chose. Au-delà de la résurrection des morts,
pourquoi?
C'est pour autre chose. C'est pas pour
qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Parce que...
C'est pour que Dieu s'unisse enfin à ce qu'il a créé, à sa création, qu'il fasse un, mais complet.
Mais avec qui?
Avec Amisraël.
Avec la matière.
Avec la matière.
Bien fait. Ça veut dire qu'il y a une importance.
Un menorah qu'on renverse et qui se referme.
Ça veut dire qu'il y a.
Au-dessus de la résurrection des corps. Ça, c'est des corps. Ça, c'est pas la dernière étape.
Mais par où ça doit passer obligatoirement? Par le corps.
Par le corps.
Ok? On est obligé de passer par l'étape corps. Nous ne sommes pas des chrétiens où chaque fois qu'on veut monter en spiritualité, on quitte le corps. L'inverse. Chacune de nos fêtes, on est assis en train de manger, en train de boire, en train de chanter. Pourquoi? Dans la Kabbalah, c'est encore plus fort. Les éléments de lumière qui ont créé le corps sont plus élevés que les éléments de lumière qui ont créé la lumière. Le kav de lumière qui est rentré dans le Tzimtzum, pour ceux qui comprennent. Et le Lechem, qui était un très très grand kabbaliste, Lechem Shebo Vahlama, nous explique qu'en réalité, le corps a une source beaucoup plus élevée que l'âme. Et c'est pour ça que l'âme d'Israël, elle a été créée par la terre, alors que l'âme des nations, dit le Maharal, est créée par le ciel. Donc nous sommes plus terre que ciel. Et c'est pour ça que le Mashiach, Emet, Me'eretz, Titzmar, elle pousse de la terre. Moralité, toute notre force spirituelle, elle passe obligatoirement par la terre. Shchon Eretz ou Ra'e Emuna. En résidant la terre d'Israël, tu peux devenir le berger de la Emuna. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez encore un petit quart d'heure? D'accord. Alors, on va rentrer un tout petit peu dans la Haggadah de Pessah avec votre permission. Baruch Hamakom, Baruch Hu. Béni sois-tu le lieu. Je reviens. Pourquoi Dieu s'appelle le lieu? Parce que justement, il passe par la notion de lieu. Il passe par la notion de Zeshahar Shamaim. C'est la porte du ciel. Donc la terre d'Israël a une importance capitale. Yerushalayim. Et donc toute la grandeur de Dieu, c'est lorsqu'il s'adresse à nous. Baruch Shenatan Torah le Amo Israël. Béni sois-tu l'Éternel qui nous a donné la Torah. À qui? Au peuple d'Israël. C'est-à-dire que le lien se fait par le biais de la Torah. Il se relie à nous. Baruch en hébreu veut dire lié. Et d'un coup, la Haggadah nous dit, comme si de rien n'était, Keneged Arba'a Banim Dibra Torah. Vous connaissez? Chachacham. Echad Rasha, Echad Tam, Ve'echad She'eino Yodea Lishol. La Torah parle à quatre fils. Je vous pose la question, pourquoi? Avant de rentrer chez ces enfants-là, La chose la plus importante, c'est que la Torah est tellement intelligente qu'elle arrive à parler à quatre fils. C'est-à-dire, elle parle à tout le monde. À tous les niveaux de juifs. Pourquoi ? Parce que le souci de Dieu, c'est d'avoir un interlocuteur. Donc, pour avoir un interlocuteur, je dois me mettre à quoi ? À son niveau. Donc, si c'est un chacham, je vais lui parler comme un chacham. Si c'est un rachat, je vais lui parler comme un rachat. Si c'est un tam, je vais lui parler comme un tam. Et même celui qui ne sait pas poser de questions, je vais parler son langage. Regardez la force divine. C'est pas seulement de jeter une Torah. Non. C'est de se mettre keneged arba'a banim dibra Torah. Équivalent à 4 degrés la Torah a parlé. En approfondissant, c'est le pshat, le remez, le drash et le sod. Les 4 niveaux de compréhension de la Torah. La Torah parle à tous les niveaux en même temps. Je peux donner un cours à un kabbaliste et à un petit enfant qui vient de commencer Bereshit. Et les deux vont prendre ce qu'ils ont à prendre. En même temps, la Torah est tellement bien faite, car elle est divine, qu'elle nous enseigne quelque chose. Quel est le bon rav ? C'est le rav qui arrive à parler à tout le monde. Chacun va croire que le cours est pour lui. Et c'est ça la force d'Akadosh Baruch Hu. C'est lorsqu'il nous parle, on a l'impression qu'il nous parle à nous. Bishvili nivra olam. Donc la Torah parle à ses enfants. Keneged arba banim. Depuis quand nous avons le titre de banim? Banim atem l'Hashem Elohechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une machloket. Okay? Dans la Gemara de Kiddushin, à la page 36, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda nous dit, si vous ne faites pas les mitzvot, vous n'êtes pas appelés fils. Rabbi Meir vient et lui dit, non, je suis désolé mon cher ami, Rabbi Yehuda, avec tout le respect, même lorsqu'Israël ne fait pas les mitzvot, on les appelle les fils d'Akadosh Baruch Hu. Il ramène plein de psukim qui disent qu'on est en train de fauter, banim mashritim, et tu utilises le mot banim, donc tu es encore un enfant. Mais quel fils tu es? Ah, tu as dit que je suis un fils, c'est pas mal. Et la halakha est comme qui? Comme Rabbi Meir. Ben kach ou ben kach kouin banim, quoi qu'il fasse, nous sommes appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, lo zaz mi lechabevan, dit la Gemara, il ne bouge pas de les chérir. C'est mon fils qui a fait quelque chose et c'est mon fils, je ne peux pas renier. Donc Akadosh Baruch Hu ne renie pas ses enfants. Alors, quelle est la nouveauté? C'est que Dieu s'adresse à nous. Autrement dit, lorsque Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est descendu sur le mont Sinaï? Tout simplement, il est descendu pour nous parler. Il s'est mis à notre niveau. C'est-à-dire, c'est la capacité du divin à la contraction par rapport au receveur. Donc Dieu s'est mis à mon niveau. Dibra Torah Bilshon Bnei Adam. La Torah parle un langage humain. Quand vous regardez la Torah, vous regardez l'histoire, vous avez l'impression que c'est une histoire, ça peut être très sympathique, même dans l'histoire elle-même. Ça veut dire que Dieu a la capacité extraordinaire que l'infini devienne fini. Mesuré. Il y a des vêtements. Dieu s'habille. Et ça, c'est le secret qu'Eneged Arba Banim Dibra Torah. C'est-à-dire, il y a 4 possibilités, en tout et pour tout, dans l'humanité, en l'occurrence dans le peuple juif, 4 sortes d'enfants, 4 sortes de possibilités d'un langage du divin vis-à-vis de nous. Ça veut dire qu'il y a en fait 4 sortes de prisons, dans 4 sortes d'Égypte. Et donc la Torah va parler, équivalent à chacune des sortes d'Égypte, pour essayer de te libérer, toi qui es dans ce degré ou dans l'autre. Donc si la Haggadah de Pessah prend le soin de parler de 4 sortes de fils, c'est pour libérer chacun comment il faut lui parler pour qu'il sorte de son Égypte. Donc le Chacham va dire quelque chose, tu vas lui dire quelque chose. Le Racha va dire quelque chose, tu vas lui dire quelque chose. Der Chaga, l'inverse de Racha, c'est pas Chacham, c'est Tzadik. Et il est où le Tzadik? Il n'y a pas. Quel rapport entre le Chacham et le Racha? Ce n'est pas les inverses. Alors mon Rav dit toujours, il vaut mieux que tu sois Chacham que Tzadik. Parce qu'un Chacham sait s'habiller avec les gens qu'il a autour de lui. Un Tzadik, il joue au Tzadik. Et il peut fatiguer les autres. C'est-à-dire quand tu as une Agada de Pessah, par exemple, et tu joues au Tzadik pendant la Agada de Pessah, et tu ne sais pas être un Chacham, tu peux fatiguer toute l'assemblée juste pour jouer au Tzadik. Fais attention. Sois Chacham plutôt que Tzadik. Si tu peux être un Tzadik Chacham, c'est encore mieux. Donc la Torah nous donne une solution pédagogique de nous sortir de 4 degrés d'emprisonnement. Vous allez me dire, alors le Chacham, il n'est pas en prison? Si. Il est en prison de sa Chokhma. C'est-à-dire les gens, plus ils sont sages, plus ils ont des marbe da'at, marbe mach'ov. Les gens sages souffrent plus encore que les autres. Parce que sans arrêt, ils sont dans des emprisonnements de l'esprit. Le tam, à la limite, il souffre moins. Et il prend les choses comme elles sont. Chez le Eder, les choses, il ne se pose même pas de questions. Okay? Il est tranquille, mais il faut sortir de son Égypte. Parce que si ce n'est pas toi qui va sortir, il ne va jamais se poser la question pour sortir, il va croire qu'il est bien. Et ainsi de suite. Mais on va y arriver. Donc il y a ici une règle que les sages nous disent. En mechanchim beshlashot. Qu'est-ce que ça veut dire en mechanchim beshlashot? Quand on éduque des enfants, on ne les éduque pas en groupe. Hein, tu les attaches par trois et tu leur donnes un chiour. Non. Chanoch lana abidarko. Chacun, il faut lui parler le langage qu'il sait entendre. Moi, j'ai un enfant qui est artiste. Il faut que je lui parle comme un artiste. J'ai un autre qui comprend que les mathématiques. Donc, je vais lui donner des exemples mathématiques. Et l'autre, il ne comprend que par des allégories. Donc, je vais utiliser des allégories pour lui faire comprendre ce que je vais comprendre. Je ne peux pas éduquer tout le monde dans un bloc. Pourquoi? Parce que je veux persuader. Et lorsque je veux persuader, je dois être assez sage pour m'habiller dans le langage de l'autre. Et on peut convaincre n'importe qui quand quelque chose est vrai, à condition d'appuyer sur le bouton. C'est-à-dire d'utiliser le langage de celui à qui tu parles. Moi, j'ai élargi un petit peu cela, et je pense que la génération dans laquelle nous sommes, on ne peut plus lui parler comme les générations d'avant. C'est la même manière. C'est-à-dire qu'il faut habiller notre langage selon la génération que nous avons aujourd'hui pour essayer de faire passer ce message. Sinon, ça ne passe pas. Moralité, j'ai l'obligation de dire des choses qui s'entendent. De la même manière, tu as une interdiction de dire des choses qui ne sont pas audibles. C'est-à-dire, si tu es sûr que ce que tu vas dire ne va pas être écouté, ne le dis pas. Mais tâche de dire des choses qui vont être écoutées par l'autre. Alors la Torah, certes, vient du ciel, hein, Torah min ha-shamay, mais l'Oba Shamay. Incroyable, il y a marqué qu'elle n'est pas dans le ciel. Et oui, elle vient du ciel, mais elle n'est pas dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'elle est descendue sur terre, donc elle est au niveau des humains. Donc tous les gens qui se pomment un petit peu dans les cieux, okay, il faut leur dire redescends, on est là avec les hommes. Akadosh Baruch Hu est là avec les hommes. C'est-à-dire que la Torah céleste est une Torah qui est appartenant à l'homme. Et c'est pourquoi aucun rapport avec la Haggadah de Pessah. On est en train de parler de Pessah, on est en train de nous rentrer comme si on était dans la fête de Shavuot. Baruch Shenatan Torah le'amo Israël, dans la Haggadah de Pessah. Attends, on n'est même pas sorti d'Égypte, déjà tu me parles de la Torah. Baruch Shenatan Torah le'amo Israël. Mais la Haggadah est précise, nos sages ont une intelligence extraordinaire. Et elle vient nous dire, c'est les quatre enfants. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu s'adresse, comme on l'a dit, à 4 degrés. Et c'est comme ça qu'on considère que Dieu donne véritablement la Torah. Si tu es un véritable enseignant, tu dois te mettre au niveau de tes élèves. Et c'est ce que dit le Ritba, et Rabbi Yitzhak Abarbanel, Alei Mashalom, qu'Akadosh Baruch Hu est un véritable maître parce qu'il sait se mettre au niveau de ses élèves. Un petit peu plus profond, on voit que chacun de ses enfants, de ses quatre fils, passe par les quatre étapes. Ce n'est pas seulement qu'il y a quatre fils, c'est que chacun de nous dans notre vie, nous traversons ces quatre étapes. Un coup tu es le Tam, un coup tu es le Raham, un coup tu es le Racha, et un coup tu es Sheino Yodé Alishol. C'est-à-dire pendant tout le développement de l'homme, je dois passer, je dois traverser ces quatre étapes. Et ça c'est équivalent en fait à ce que nous disent les Chachamim dans Mishneh, dans Pirkei Avot, qu'il y a quatre sortes d'hommes, quatre sortes de degrés chez l'homme. Dans Pirkei Avot, qu'on va commencer à lire encore plus intensément après Pessah, dans le Perek He, il y a marqué, l'un des sages s'appelle Mashper. Qu'est-ce que c'est Mashper? Un entonnoir. Un autre style de sage s'appelle Sfog, une éponge. Un autre style s'appelle Mishmeret, on va voir, une garde. Et le dernier s'appelle Napa. Qu'est-ce que c'est Napa? Un tamis. Et nous allons traverser ces quatre étapes d'une manière assez rapide. Au début de notre vie, on est comme un entonnoir. C'est-à-dire, ça équivaut à celui qui ne sait pas poser de questions. C'est-à-dire, on a une incapacité à recevoir les messages véritables. Ça nous passe un petit peu au-dessus de la tête, on entend plein de choses. On a plein d'informations, mais il n'y a pas grand-chose qui rentre. On capte, mais ce n'est pas véritablement quelque chose qui reste. Ça reste dans le subconscient. Mais on n'est pas encore dans le degré. Donc on est comme un mâche-pair. C'est-à-dire, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. On commence à devenir un tout petit peu adulte, mais on est encore jeune. Okay? Alors on est comme une éponge. On est comme le tam. Comme celui qui est simple, mais entier. On éponge. On reçoit, on absorbe. C'est-à-dire, on croit à tout. On est encore petit enfant, mais on croit à tout. Tout ce qu'on nous dit, ça rentre. On passe à l'âge ingrat, fameux Gilaït Bagrout, okay? On devient le rachat. C'est-à-dire la Mishmeret, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des crises, on refuse tout, comme si tout ce qu'on avait absorbé comme une éponge, maintenant on rejette tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Mishmeret? Celle qui garde les... Celle qui garde les Shmarim et qui fait passer le vin. Okay? C'est-à-dire que le vin passe et toute la lie du vin, c'est comme ça qu'on dit? Alors, au lieu de garder le vin, tu gardes la lie du vin. C'est l'adolescence. C'est-à-dire que toute la pourriture du monde, tu l'attrapes et le bien, tu es en train de le passer. Dernier degré, lorsqu'on devient à l'âge adulte, qu'on a déjà dépassé, on devient le chacham, le tamis. C'est-à-dire que on filtre, on garde la véritable farine et on jette l'obsolète, c'est-à-dire les résidus qui n'étaient pas importants. Avec tout ça, et tous ces enfants, et tous ces styles d'enfants, une seule base, et je clôture mon chiot, pour tous ces enfants en même temps, c'est l'amour. Akadosh Baruch Hu avant tout nous aime. Et puisqu'il nous aime, nous devons aussi aimer l'autre. Si je hais un homme d'Israël ou une femme d'Israël, je fais quelque chose qui est anti-divin, puisque Dieu nous aime. Ahavta otanu neum Hashem, tu nous aimes. Donc je dois aimer tout le monde. Si je n'aime pas quelqu'un, même dans mon cœur, il y a un problème avec ça. Faire très attention dans ton cœur de ne pas haïr quelqu'un d'Israël. Même si tu lui en veux. J'entends les « ah ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes avant tout Banim Atem Hashem Elokechem. N'importe comment, Banim Schalim Hema, Banim Lo Emun Bam, Zera Meireim, Banim Ashritim. Mais à chaque fois, le mot Banim revient. Avec toutes les bêtises qu'on peut faire, on est appelé Banim. Alors peut-être tu te dis, oui, mais c'est des enfants, mais d'un souk bête. Okay, c'est pas. Okay. Première qualité, les Chachamim nous disent Ve'haya b'makom asher ye'amer lahem, lo ami atem. Si tu as l'impression à un moment donné que je considère que mon peuple n'est plus mon peuple, ye'amer lahem banai ne el chay. Vous êtes les enfants d'un Dieu vivant. Je vous garde toujours comme mes enfants, je vous aime. Banim me'oulim, des enfants précieux que j'aime, que je considère comme étant le top niveau de mes enfants. Comme dit la Gemara dans Kiddushin, là-bas à la page 36. Et donc, comme le développement de l'enfant, au départ, il est comme un sachal, c'est-à-dire, il ne se pose pas trop de questions, il avance. Après, il devient tam, il n'a pas de profondeur dans sa vie, mais bon, il a une émouna. Après, il devient racha, et on a l'impression qu'il a tout quitté. Et il se sauve du Kodesh, et Baruch HaShem, à la fin, il termine, chacham, c'est-à-dire le fils qu'il a toujours été, mais qu'il a eu du temps à mettre pour se retrouver. Et donc, tout ce point qui était au départ est devenu ce cube de la fin, celui qui a construit le volume, celui qui a construit la matière des choses. Malgré toutes les étapes, pendant toutes les étapes, Eino zaz milechavevam, Akadosh Baruch Hu nous aime pendant toutes les étapes de notre évolution. Alors, nous-mêmes, on doit s'aimer. Si on ne s'aime pas nous-mêmes, alors Chas v'Shalom, on ne peut pas avancer. Si on a l'impression que nous ne sommes pas bons, que cette génération n'est pas bonne, qu'on ne mérite pas la Géoula, Chas v'Shalom, à chaque fois qu'on dit des choses pareilles, on est en train de nous retarder nous-mêmes. Donc il faut avoir confiance un tout petit peu plus en soi, beaucoup plus en soi, et savoir qu'une seule chose est vraie, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, et que nous avons un processus. Et il faut respecter ce processus, notamment lorsqu'on est dans la Géoula du corps, qui elle ressemble à l'âne qui est têtue et qui est lente. Alors ça va se passer en étapes, lentement, mais sûrement. Amen. Pas que ça va.